nous sommes à l'antenne et vous êtes à l'antenne, vous écoutez Radio Galère sur 88.4 et sur le réseau internet pour ceux qui nous écoutent depuis le Canada, l'Australie, la Chine, le Japon, j'en passe, et des meilleurs. Voilà, on se retrouve donc pour cette édition hebdomadaire des Carnets de Gomaguerre sur l'actualité internationale. Je retrouve avec plaisir Habib. Bonjour, qui m'a rejoint, alors qui va vous parler des activités très intenses qu'il a eues ces derniers temps et qui l'ont éloigné un peu du micro. Et je retrouve avec plaisir Yamine dans la cabine technique, que je remercie, qui est aujourd'hui assistée. Alors, vous savez, Radio Galère, c'est une espèce d'école de formation permanente, hein, pour des journalistes, pour des techniciens. Et donc, à côté d'Yamine, il y a un nouveau dont je ne connais pas le prénom.
Alors, c'est quoi ton prénom? Tu peux nous dire, c'est quoi, pardon?
Mathéo.
Voilà. Mathéo, très bien. Qui donc s'intègre à l'école de formation permanente de Radio Galère, menée par Louise en particulier pour les questions techniques. Donc.
C'est ça, et ils ont une émission.
Oui, je vais le dire.
Il faut aussi préciser qu'ils ont une émission tous les lundis.
Voilà.
Un lundi sur deux.
Un lundi sur deux, voilà, qui porte le nom de.
Informaction.
Informaction, voilà. Si ça intéresse les auditeurs et les auditrices.
C'est parfait.
Voilà, elle va nous expliquer, Louise, alors tant qu'on y est, non, explique-nous, Louise.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Louise?
Alors, c'est Informaction, c'est le deuxième et le dernier lundi du mois.
Ouais.
Et on parle de l'actualité, de l'information de Marseille, mais c'est souvent avec un vrai travail d'enquête et de terrain. Voilà, je vous invite à l'écouter. On est quatre sur cette émission. Il y a Mathéo, Walter et Inès. Et on a plutôt une formation des sciences humaines, d'anthropologie. Et donc, on prend un peu cet axe-là pour réfléchir sur ce qui se passe à Marseille dans l'actualité.
Voilà. Vous allez nous faire un portrait de l'Homo Massiliensis, c'est ça? À peu près, non?
Ah oui, pardon.
Il dit quoi?
Oui, vous allez nous faire un portrait de l'Homo Massiliensis, c'est ça? Oui, c'est ça, on peut appeler ça comme ça.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ah, c'est une variété particulière de l'anthropopithèque, l'homme de Marseille. Variété inaugurée depuis 2600 ans, en cours d'amélioration permanante, hein, et au cœur de l'histoire, tout le temps.
Ok.
Voilà.
Super. Merci pour cet approfondissement. Je te laisse faire ton émission.
Merci, Louise.
Ciao.
Ciao. Voilà. Et Mathéo, donc, qui a vu. Alors, on va commencer par parler d'événements qui nous ont occupés ces dernières semaines. On vous avait parlé beaucoup donc, du soutien à la Syrie et à la Turquie. Alors, plus parler de la Syrie, parce que la Turquie n'a pas de difficulté, elle, pour recevoir des secours, d'où qu'ils viennent, dans quelques proportions qu'ils viennent, dans quelle quantité qu'ils viennent. Alors, s'ils ont des problèmes internes de redistribution, de non-respect de la législation antisismique, ça les regarde, mais c'est un gouvernement qui n'a aucune difficulté de forme pour faire suivre, pour aider les citoyens, les familles de ceux qui sont morts, les blessés, la reconstruction et tout. La Turquie, alors, c'est pas qu'on veut pas en parler, ils ont eu beaucoup plus de morts que la Syrie, on le reconnaît, on le sait, c'est connu, mais par contre, ils ont eu toutes les facilités pour se sortir de cette catastrophe. C'est pas le cas de la Syrie.
Et la plupart des Français que j'ai rencontrés, on ne comprend pas, ils me disent, on parle beaucoup plus de la Turquie alors qu'il y a eu aussi le même tremblement en Syrie.
Voilà.
Et vraiment, ils n'ont pas très bien.
Alors, les explications, effectivement, sont beaucoup moins nombreuses, hein, parce qu'effectivement, dans la mesure où on est dans un pays en guerre, où donc il y a moins de reporters, où il y a une tentation qui est constante maintenant depuis 12 ans de présenter la Syrie comme un cas désespéré. En gros, c'est un peu ça dans les grands médias français. Et donc, on dit, ah ben là, on ne sait pas trop, il y a des morts. Il y en a effectivement moins à ce qu'on sait en Syrie qu'en Turquie, mais il y en a. Et par contre, les conditions d'accès de l'aide internationale à la Syrie sont beaucoup, beaucoup plus compliquées. Alors, vous avez déjà évoqué le sujet. J'y reviens parce qu'il se trouve qu'il y a... Vous savez qu'à l'ONU, on trouve de tout. Et il y a des commissions qui s'occupent d'un peu tout. Et il y a une commission qui s'occupe en particulier de l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc, qui est en plein dans cette actualité-là. Alors, c'est triste à dire, mais en fait, il faut qu'il y en ait une, puisqu'il n'arrête pas d'y avoir des catastrophes naturelles, que ce soit des tremblements de terre, des tsunamis, etc. Donc, c'est une commission qui s'occupe que de ça, l'aide humanitaire internationale, patronné par l'ONU pour aider des pays en difficulté. Bon. Et le président de cette commission, donc, qui est bien au courant de tous ces aspects-là, transport, comment ça arrive aux bons destinataires, etc., a fait une mise au point en disant ben, il faut bien savoir que dans le cas de la Syrie, nous ne savons pas et nous sommes à peu près certains que le gouvernement syrien ne reçoit pas l'aide internationale. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire, ça confirme mot pour mot ce qu'on vous a dit depuis 3 semaines sur cette antenne, Habib et témoin, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à une date récente, et c'est encore vrai maintenant, de toute façon, l'aide internationale qui arrivait principalement par la Turquie, où là elle arrive très très facilement sans limite, passait par une ou deux ou trois portes d'accès qui débouchent donc depuis le territoire turc sur le territoire syrien, et ces trois portes étaient tenues par les terroristes. Et donc, les terroristes qui veulent la chute du gouvernement ont évidemment tout intérêt à ne pas acheminer cette aide vers le gouvernement et vers les populations un peu plus éloignées de la zone où ils sévissent. Et donc, ils gardent ça. Est-ce qu'ils en font argent ? Est-ce qu'ils rackettent même la population qui est dans leur territoire pour lui dire « Ah, je veux bien te donner des médicaments, mais c'est temps et je te vole ?» C'est tout à fait possible. Et donc, moi, je me réjouis qu'enfin, il y ait un organisme démocratique, enfin, au moins honnête, qui disent à l'ONU ben, « Nous, on dément qu'effectivement, le régime syrien n'a rien à se reprocher du point de vue de l'aide, puisque de toute façon, il ne peut pas la recevoir. Au moins celle-là. » Heureusement, et on l'a déjà dit aussi dans les émissions précédentes, il est arrivé par la voie de mer et par d'autres voies des aides étrangères qui n'ont pas eu à passer par le système turc djihadiste, par les portes dont je vous parlais dans la région d'Idleb.
Et on peut dire 50 pays
qu'ils ont participé. Voilà, et alors là, heureusement, voilà, il y a eu compensation de l'autre côté, c'est-à-dire que tous les gens de la région, tous les partis politiques et tous les gouvernements de la région savent très très bien quelle est la situation dans le nord-ouest de la Syrie et ils savent très très bien que l'aide arrivant par la Turquie ne va pas au gouvernement syrien et ne va pas à la population syrienne dans son ensemble. Elle est entre les mains des terroristes. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un pays comme l'Égypte a envoyé un bateau d'aide humanitaire dans le port de Latakié. C'est comme ça que le roi de Jordanie a envoyé par la frontière commune qu'il a avec la Syrie des camions et tout ça. C'est comme ça aussi qu'il est arrivé une aide irakienne, une aide iranienne.
Très importante.
Voilà. Il est arrivé aussi par navire de l'aide algérienne. Enfin, donc, il y a beaucoup de donateurs. Mais ça ne doit pas faire oublier qu'effectivement, une partie de l'aide internationale est tombée entre les mains des terroristes. Et tant qu'il y aura des terroristes sur le sol de la Syrie, il y aura des irrégularités, j'allais même dire des horreurs de ce type-là. Ouais. Donc c'était pour faire ce point-là, ce point de point politique sur l'aide à un pays en souffrance qui a souffert. Alors on est au niveau de quelques milliers, c'est pas 40 000 personnes comme en Turquie, mais on est sans doute au-delà de 5 000. Et encore que, il faut savoir et bien comprendre aussi, et ça continue par rapport à ce que je viens d'expliquer, les morts qu'il y a dans la zone tenue par les djihadistes, les terroristes, le gouvernement syrien n'est pas en capacité de les compter un par un. C'est-à-dire, c'est un endroit où il ne va pas, où il n'y a pas de fonctionnaire de l'État syrien dans la zone d'Idleb. Donc, s'il fait une estimation comme ça, il dit qu'il y a quelques milliers, mais en fait, il n'en sait. Il n'a pas de résultat officiel, puisqu'il ne gouverne pas cette province, donc le nord-ouest, j'insiste là-dessus, et une partie de la frange nord du territoire.
La Turquie doit être au courant.
Voilà, la Turquie sait sûrement tout, hein, parce que ces terroristes qui sont là sont alimentés, soignés, aidés en permanence par l'administration turque et par l'armée turque. Donc, eux savent. Hein. Alors, c'est assez paradoxal de dire ben, y a un pays qui a été victime d'une catastrophe, qui est la Turquie, qui sait tout ce qui se passe, mais elle sait aussi très bien ce qui se passe dans le pays d'à côté, où pourtant elle n'est théoriquement pas maître chez elle. Voilà, ça nous a amené à faire le point un peu sur cette aide à la Syrie, mais tu as un mot à dire peut-être à Bible là-dessus, voilà.
Le plus, enfin, il y a quelque chose qui s'est déroulé pendant ce tremblement de terre, c'est que les pays arabes ont montré tout de même leur solidarité. Et directement avec le pouvoir politique syrien qui est en place. Et ça, c'est une bonne chose pour le moment. Espérons donc dans l'avenir que ça continue et que ça aille plus loin et que la Syrie trouve sa place dans la Ligue arabe. Ça, c'est important. Voilà.
retrouve sa place, puisqu'en fait, elle en a été, non pas exclue, mais mise sur de côté, ouais. Disons, depuis 2011, ou je ne sais pas si ouais, la première ouais. année, voilà, depuis ce moment-là. Mais ouais, le changement d'attitude, donc, qui est pour des raisons humanitaires, de quasiment tous les gouvernements arabes, montre bien que cette question-là va devoir politiquement être réglée. C'est-à-dire est-ce que la Syrie est un pays arabe, donc on ne voit pas au nom de quoi elle ne serait pas membre de la Ligue arabe, membre ouais, actif ouais. de la Ligue arabe.
En plus de ça, il y a eu quand même un mouvement des pouvoirs politiques des pays arabes, comme le premier ministre égyptien qui est
tout
venu,
à fait. Ouais.
Le comme on appelle, Oman,
oui.
l'Iran,
les Bahreïnis
oui,
aussi,
ouais, l'Iran, voilà. Tous ces gens, et puis même le Parlement arabe qui a fait visite en Syrie aussi.
Tout
hein.
à fait. Voilà. Donc il y a un réalignement, disons, du monde arabe sur,
ouais.
voilà, sur cette question-là.
Bah, ils ont bravé la loi César. J'ai l'impression que c'est une bonne chose. Alors voilà. est-ce que ça continuera?
Alors, bravé la loi César, ça veut dire que tous ces gouvernements-là, donc algériens, égyptiens, iraniens, etc., ont dit tant pis si on a des sanctions du fait de l'aide qu'on apporte, humanitaire qu'on apporte à ce pays, de toute façon, on brave ces sanctions et tant pis s'il y en a. Parce que pour nous, c'est l'humanitaire et le soutien à un pays en difficulté qui importe. Donc souhaitons que ce message poursuive.
D'ailleurs, comment ils s'appellent, les Occidentaux et les Américains? Ils ont dit, bon, on va essayer d'enlever cette histoire de loi César pendant 6 mois. En réalité, les aides provenant de ces pays ont été complètement détournées.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, interdiction, alors, par exemple, une aide qui viendrait d'un gouvernement français ou d'un gouvernement ouais. britannique ou italien n'irait pas dans les caisses du gouvernement syrien.
Elle
irait à d'autres groupes, genre, alors ben, on cite par exemple les casques blancs, à des groupes activistes aux mains des puissances étrangères et qui sont effectivement là pour continuer à faire fonctionner.
Alors ils appellent ça l'opposition, mais c'est une opposition armée.
C'est une opposition armée. Voilà,
c'est des terroristes, quoi.
C'est des terroristes financés par l'étranger. Ouais. Voilà ce qu'il fallait dire pour parler de cette Syrie dont on reparlera encore, évidemment. Et puis, je voulais m'arrêter un moment sur une manifestation qui, je pense, n'a pas fait la une des grands journaux, mais qui s'est tenue ce samedi, donc à Gênes,
oui.
un principal port italien, et qui était une manifestation d'un type un peu nouveau et très intéressante sur laquelle je vais m'intéresser. Je m'arrête. Premier point, il n'y a pas eu énormément de monde. Prenons-le pour ce que c'est. On compte 20 000 personnes. Il n'y a pas eu, comme il y a souvent ici, les chiffres de la police et les chiffres des manifestants, mais c'est un chiffre que les organisateurs acceptent en disant « on a fait ça, personne ne pensait qu'on pourrait le faire ». Et ça a donné lieu à un rassemblement de toute une série d'énergies sur lequel je vais m'arrêter pour vous les présenter, qui est d'un type tout à fait nouveau et qui est un peu l'espèce de point de départ d'un mouvement contre la guerre qui démarrerait en Italie et qui devrait inspirer, et vous voyez où je veux en venir, et qui devrait inspirer d'autres pays d'Europe puisqu'il s'agit d'un mouvement de classe initié par des travailleurs de base du port de Gênes, donc qui sont les principaux prolétaires, disons, de la ville de Gênes, sur une base qui est très intéressante. Pourquoi c'est une base de classe? Parce qu'ils disent, ils tiennent le discours que je vais résumer de la façon suivante. Le patronat, ou les grandes entreprises capitalistes qui fréquentent le port de Gênes comme elles fréquentent tous les grands ports du monde, nous exploitent, nous surexploitent, engendrent des accidents du travail, des morts au travail sur les quais, et c'est ce même patronat qui engendre les guerres. C'est-à-dire, il y a d'une main, ces mêmes entreprises capitalistes sont à la fois capables de maltraiter leurs ouvriers et à la fois de maltraiter une population en la bombardant. Et c'est là qu'il y a une démarche très très intéressante. Mettez-vous bien ça dans la tête, vous qui nous regardez, je parle un citoyen génois qui verrait passer la manifestation sous ses fenêtres, ce sont les mêmes hommes, les mêmes quartiers généraux bancaires des grandes entreprises capitalistes qui à la fois tuent des ouvriers au travail et à la fois tuent des gens dans différents pays du monde parce qu'ils ont les mêmes intérêts, ils défendent leurs intérêts ici en surexploitant la classe ouvrière, là en écrasant un pays sous les bombes. Ce sont les mêmes. Et c'est cette jonction-là qui n'est pas du tout un artifice de raisonnement. On a effectivement des centres de décision où on tient le même discours, c'est-à-dire baisser la masse salariale et augmenter les ventes d'armes. C'est les mêmes personnes qui font ça, baisser les salaires, ou le même groupe bancaire, ou le même rassemblement d'oligarques italiens ou espagnols, ou tout ce qu'on veut. C'est ça l'intérêt de cette manifestation. Et qui rassemblait des groupes très divers. Alors ça commençait par effectivement les syndicats de base, parce que j'insiste là-dessus, ça c'est propre à la situation italienne. C'est-à-dire que vous savez qu'en Italie, il y a trois grandes confédérations syndicales nationales, qui, d'après les camarades du port de Gênes, très précisément, ils disent qu'il s'agit de leaders syndicaux qui sont surtout habitués à mener des débats devant les télévisions. Là, ils sont formés, ils savent faire et tout. Par contre, pour s'intéresser à leurs adhérents de base et pour défendre les revendications, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Ce qui a amené, donc, dans beaucoup d'endroits, et en particulier dans les principaux ports italiens, à constituer des unions syndicales de base, c'est-à-dire des gens qui avaient la carte ici et là dans telle confédération, disent, de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir la carte, à la rigueur, on la garde par fidélité ou par amour du logo, mais en fait, quand on a, nous, un problème concret de travail, de qualité de travail, de rémunération, de sécurité au travail, vous savez que les ports sont des endroits dangereux, par définition, où il y a toujours des morts, il y en a eu récemment en Italie. Bon, on peut compter que sur nous-mêmes. Et donc, à la place du syndicat qui s'appelle Tartempion, ça n'a pas d'importance, on fabrique une union syndicale de base. C'est comme ça que ça s'appelle en Italie, Unione Sindicale di Base. Voilà. Parce que là, c'est les gens concernés qui prennent en main leurs problèmes et qui essayent de faire avancer leurs revendications. Bon. Et donc ça, on a ces unions syndicales de base des différents ports qui sont venus constituer un peu le noyau de cette manifestation. Et puis il est venu des groupes plus politiques qui disaient il y en a assez, effectivement, que l'Italie envoie des armes en Ukraine à longueur de journée pour tuer encore d'autres gens, comme s'il ne fallait pas envisager une autre issue à la guerre d'Ukraine que celle-là. Et donc ce rassemblement, au départ hétéroclite, a pris, comme on dirait, comme une sauce prend, si vous voulez, rassembler cette union syndicale de base, donc de travailleurs portuaires, ces groupes politiques donc, qui se préoccupent de l'avenir. Et ils sont venus aussi parce que le syndicat de base du port de Gênes a mené des actions de boycott de navires qui exportaient des armes italiennes. Il y a eu plusieurs cas, mais on connaît. Il y a une entreprise de transport maritime qui appartient aux émirs saoudiens, qui s'appelle Bahri, B-A-H-R-I, qui a l'habitude de venir charger de l'armement, de l'armement fabriqué dans des usines italiennes, pour l'envoyer en Arabie saoudite pour aller tuer des yéménites. Hein. Et donc, une fois, deux fois, les dockers du port de Gênes ont dit « ça, on ne le fait pas. Ce travail-là, on ne le fait pas. Nous, on fait un travail pour le bien-être des gens, pour qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Mais on n'envoie pas d'armes. Hein. On n'envoie pas la mort par le port de Gênes. » Alors, c'est un acte très, très politique, hein, puisqu'en fait, ils risquaient, à la limite, leur place. Bon, le patronat n'a pas osé trop y toucher. Hein, mais c'est un acte très politique qui montre qu'effectivement, une fois qu'on en est à raisonner comme ça, on ne raisonne pas sur un intérêt corporatif du travailleur portuaire. Hein. On dit, vous avez perdu une journée de travail, vous avez refusé de décharger ce bateau. Ça veut dire, oui, on a perdu peut-être une journée de travail, mais on a dit qu'on ne voulait pas faire ce métier-là. On ne voulait pas travailler pour exporter la mort. C'est ça qui est très riche. Et c'est ça qui explique qu'il y avait, à cette manifestation de Gênes, des groupes politiques qui disaient, ben, coup de chapeau. Vous avez fait ça, c'est la preuve qu'effectivement, on peut travailler ensemble. Vous n'êtes pas simplement pour regarder quel est votre salaire, vous êtes là pour regarder le sens de ce que vous faites. Et quand je dis ça, ça prend un poids considérable. C'est-à-dire, à partir d'un moment où des ouvriers, qu'ils soient portuaires ou métallurgistes et tout, disent « je voudrais connaître le sens du travail que je fais » et qui dit à son patron « là, le travail que tu me fais faire ne me convient pas et je le refuse », ça ouvre un abîme, c'est-à-dire un abîme, ça veut dire que sous les pieds des capitalistes, la terre s'ouvre. C'est un tremblement de terre quand un travailleur dit « moi je veux bien travailler, je veux gagner ma vie, d'ailleurs je ne peux gagner ma vie qu'en vendant ma force de travail, mais si vous me faites quelque chose qui heurte ma morale personnelle et la morale de mon groupe et la morale de ma classe sociale, je ne le fais pas, même si je dois perdre un peu d'argent. » Et à ce moment-là, l'obéissance au patron est en train de s'évanouir. Et un patron qui n'est plus obéi ou qu'on conteste en disant « mais ça, ce travail-là, c'est un travail que je ne veux pas faire, parce que c'est un travail mortifère et meurtrier », ça devient tout à fait ingérable pour le pouvoir capitaliste. Bon. Alors, vous voyez que je vais assez loin dans le raisonnement, mais c'est bien, il faut bien voir que la réaction du gouvernement italien par rapport à ces actions-là, la réaction du grand patronat, de la presse économique et financière, elle a été d'abord d'étouffer la manifestation, de dire « il n'y avait pas tant de monde, 20 000 personnes, c'est rien du tout ». Mais surtout, ils ne peuvent pas aborder le problème de fond. C'est-à-dire, si la classe ouvrière se met à refuser de faire le travail parce qu'ils considèrent que ce n'est pas conforme au but qu'elle assigne à l'humanité en général, où va-t-on ? Alors, où va-t-on, nous, patrons capitalistes, hein ? Bon, voilà. Alors, on en est, je m'excite pas là-dessus, comme on dit, on en est à des débuts de ce type de réflexion et surtout de manifestations publiques, collectives, organisées de ce type de manifestations. Car je suis persuadé que le raisonnement que je viens de tenir très sommairement devant vous est un raisonnement que beaucoup de gens se font tout seuls en lisant leur journal ou en regardant la télévision. Mais après, une fois qu'ils disent « oui, on sait, c'est la guerre, ils vendent des armes et tout », ça ne prend pas forme dans une action collective de rue, de terrain. C'est ça qui est en train de commencer en Italie, et c'est pour ça qu'il faudra qu'on garde un œil là-dessus, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est le moment où une espèce d'insatisfaction qu'on peut avoir individuellement, en disant, évidemment, c'est les marchands de canons qui font tout marcher, que ce soit aux États-Unis ou en France, etc. Et le moment où on passe à une action, en disant, ben, ça, on n'en veut plus. Il faudra à un moment donné que ça cesse. Et là, on est à un moment de basculement dans le politique. Ce n'est plus la conscience individuelle de chacun, la conscience morale de chacun d'entre nous. Enfin, j'espère que tous les auditeurs en ont une, bien entendu, c'est l'évidence, mais où cette conscience morale déborde du cas individuel pour arriver à... Il faut que, si on veut que notre conscience morale, elle prenne du sens et que surtout, elle ait une conséquence dans la vie quotidienne de notre société, il faut qu'on s'organise, qu'on soit nombreux, qu'on soit en capacité d'être 20 000 à Gênes, et puis peut-être 100 000 à Rome, et puis peut-être 200 000 à Paris, etc. C'est la boule de neige qui commence à démarrer. Et ça, c'est ça que je voulais saluer dans la manifestation de Gênes de ce samedi. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé sur les antennes officielles, mais il importe que chacun de nous y réfléchisse, car on est là face à un moment important politiquement par rapport à la crise, pas que la crise ukrainienne, mais à la crise internationale qui se poursuit sous nos yeux. À ce propos, je voulais vous parler, puisqu'un peu de la France, pour parler budget militaire. Je vous ai signalé, on en a parlé déjà, que le jour même ou le lendemain même où Madame Borne présentait à l'Assemblée nationale le projet de réforme des retraites, en soulignant qu'il manquait 10 milliards dans quelques années pour équilibrer les comptes de l'assurance vieillesse, peu de choses, le lendemain même, M. Macron, qui ne s'intéressait pas au sujet et qui l'a bien manifesté, c'est-à-dire qu'il est allé parler de toute autre chose, c'est-à-dire de ce qui l'intéresse lui, et il a laissé à Mme Borne le travail de la domestique, car c'est de ça qu'il s'agit, de dire « bon, tu t'occupes de ce projet-là, je t'ai dit de faire passer, puis tu te débrouilles, c'est ton problème ». Et donc, pour bien montrer que ce n'était pas son problème à lui, le lendemain même du jour où Madame Borne annonçait donc le lancement du projet de réforme des retraites, M. Macron allait présider une réunion militaire, enfin auprès des militaires, dans laquelle il annonçait 413 milliards de financement pour l'armée. On appelle ça la loi de programmation militaire. Alors, ce n'est pas dans l'année, bien entendu, parce que ça serait plus que le budget de l'État en un an. C'est sur 7 ans, mais c'est une somme énorme comparée aux 10 milliards qui font défaut, cruellement, soi-disant, pour boucler le budget de l'assurance vieillesse.
Sans compter ce qu'il fournit à l'Ukraine.
Voilà, en plus, oui, alors, sans compter, voilà, les 500 millions par-ci, le milliard, tout le matin. Et alors, c'était la violence très, très immédiate de ce propos, en disant, là, il y a des détails, il y a l'intendance, comme disait, on l'a prêté ça à d'autres chefs d'État, l'intendance, c'est-à-dire les questions de retraite, c'est bon pour le Premier ministre, ça l'occupe, etc., le gouvernement travaille, et puis laissons leur faire. Moi, je m'occupe des sujets sérieux. Alors, je parle le Macron dans le texte, hein, comme si je l'avais appris quand j'étais petit. Moi, je m'occupe des sujets sérieux. Je m'occupe des 400 milliards pour l'armée. Alors là, le choc est rude, c'est-à-dire le chef de l'État se préoccupe de 400 milliards. Oui. Qui va trouver, on ne sait pas comment, il ne l'a pas dit, mais il va les trouver. Et puis, il laisse un détail d'exécution de 10 milliards à trouver quelque part, qu'il n'y a même pas besoin de chercher, on sait très bien où on peut les trouver, il n'y a pas de souci. À Mme Borne, on dit, occupe-toi de ça. Hein. J'allais dire, non... C'est peut-être excessif. Allez, Bobonne, fais le boulot. Hein, ouais, j'allais presque cette impression très, très désagréable de dire « Allez, Bobonne, fais le boulot ». Je ne sais pas si Mme Borne accepterait que je la qualifie ainsi. Ce n'est pas moi. Je me mets dans la pensée Macron autant que possible. Je ne sais pas si je suis fait pour incarner la pensée Macron. C'est autre chose. Bon, alors, je reviens à ces 413 milliards. Alors, quand vous annoncez ça à tout l'état-major de l'armée française, ils se mettent à dire « Ah !» Alors, et c'est là-dessus que comptait Macron. Il va y en avoir pour moi. Pour moi, c'est-à-dire moi pour l'armée de terre, moi pour l'aviation, moi pour la marine,
pour l'industrie,
moi pour, moi pour, voilà, moi pour la cybersurveillance, moi pour la, les commandes de ci ou de ça. Bon. Et au fil des semaines, je me suis amusé, mais je ne m'amuse pas, mais c'est très très intéressant, à voir comment réagissait ce milieu militaire. Parce qu'ils auraient dû sauter de joie tous au plafond de 400 milliards. C'est le bonheur, regardez, c'est beaucoup plus que le budget national de la France une année. On n'a jamais vu ça. C'est 30% de plus que la dernière loi de programmation. On saute de joie. Eh bien non, je vais vous dire, ils ne sautent pas de joie. Pourquoi ils ne sautent pas de joie? Parce que d'abord, ils se disent comment ça va être réparti et qui va décider de la répartition. Alors là, le mystère est total. Alors là, ils sont tous là à dire, mais alors ça va être quoi ces 430 milliards? À qui ça va aller? Dans quelle poche ça va tomber? À qui ça va profiter? Alors il y a des aspects industriels. Hein, imaginez, Dassault doit se dire, alors il y en a combien pour moi? Nexter, le fabricant des chars, doit se dire, alors il y en a combien pour moi, etc. Chacun se dit ça dans son coin. Et puis après, il y a les armes, comme on dit, les trois armes, donc l'armée de terre, la marine et l'aviation. Il dit, alors, est-ce que j'aurai un morceau de cette énorme enveloppe? Et là, alors, ils se mettent à chercher dans la... l'oracle, dans la parole présidentielle, pour voir vers où ça va, ou vers où ça risque d'aller. Alors, on leur a parlé, et on nous a parlé à nous, qui sommes des béotiens, des innocents en cette matière, de conflits de haute intensité. Alors, on regarde autour de nous, alors regardez autour de vous, regardez sur la frontière, à l'est, à l'ouest, en Suisse, en Belgique et tout, on ne voit pas de guerre venir, on ne sait pas trop ce que c'est que le conflit de haute intensité. Alors, on nous dit, c'est le modèle ukrainien, on ne sait pas trop, c'est loin, on ne comprend pas tout. On ne nous en a pas parlé quand il s'agissait de conflits très très graves et très sanglants, je pense à la Libye, à la Yougoslavie, on ne nous a rien dit. Et donc, il y a une interrogation dans les états-majors et dans les revues, parce que les militaires de haut niveau, au moins, ça écrit, ça réfléchit, ouais. C'est pas simplement des gens qui savent tirer des coups de Kalachnikov. Bon, ils disent, c'est quoi les conflits de haute intensité? C'est où? C'est quand? C'est qui? Voilà. Et je m'arrête sur la question, c'est qui? C'est-à-dire, ce que c'est en train de faire passer dans l'opinion militaire, et puis qui devrait passer dans la population française, mais il y a des sondages qui le démontrent, c'est, est-ce qu'on a un ennemi? Alors, vous allez interroger. Alors, ça serait bien que l'émission de nos amis, là, de Louise et de Mathéo, aille dans la rue en disant, la France est en guerre avec qui? Et pourquoi? Et je ne sais pas quelle serait la réponse. On dirait, bon, on ne sait pas trop. Pour l'instant, personne ne nous veut de mal. Il n'y a pas de menace de bombardement sur Marseille. Il n'y a pas, le port de Marseille n'a pas été miné. Il n'y a pas, non, on ne voit pas trop. Et ça, c'est un sentiment que je pense ressortirait facilement, mais qui est très, très embarrassant pour la politique de Macron. Parce que s'il passe son temps à dire qu'il faut absolument se préparer à une guerre de haute intensité et que le pays ne sait pas ce que c'est que cette guerre de haute intensité et contre qui, il a un appui politique quasi nul. Alors ça, c'est le premier aspect global. Qui est l'adversaire? Il n'y a pas une déclaration de guerre, c'est vrai que ça ne se fait plus les déclarations de guerre, mais enfin, il n'y a pas d'attentat qui dise on va faire sauter le gouvernement français, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc après, il faut regarder un peu plus en détail. Ça, c'est le niveau global. L'ennemi, c'est qui? On ne sait pas. Bon. Alors c'est bête de claquer 400 milliards pour un ennemi qu'on ne connaît pas et qui ne s'est pas manifesté et dont on ne sait pas par quel bout il nous agresserait. Bon. Deuxième niveau de la réflexion entre les trois armes. Je parle de l'armée de terre, armée de l'air et marine. Alors là, quand même, dans les premières fuites, disons, les premières indications qui sont venues de l'Élysée, de Macron lui-même, on sent bien que la priorité va à la marine et à l'aviation. Et donc l'armée de terre le ressent. Ça y est, le chef d'état-major de l'armée de terre l'a dit un mot à peine poli, en disant « nous, on sert à quoi ?» Effectivement, ce n'est pas très très clair, puisque précisément l'armée de terre, elle est là pour se mettre à la frontière et dit « si quelqu'un vient m'envahir, eh bien, je suis là et je ne le laisse pas passer. Hein. » Bon, c'est ça la base. Hein. Bon, là, il n'y a pas de réponse et ils disent « nous, on n'a pas d'informations sur le pays voisin qui veut nous envahir pour l'instant. Bon, » donc, on est maltraité a priori, enfin, on sera maltraité dans la répartition de cette énorme manne de 400 milliards. Alors, restent les deux autres. Alors, restent les deux autres, ils sont plutôt assez contents. Il y en aura beaucoup pour nous. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une marine nationale très puissante et de mieux en mieux dotée financièrement? Ça veut dire circuler sur les océans. Et circuler sur les océans, ça veut dire quoi? Circuler sur tous les océans, aller le plus loin possible de la maison mère, de la République française. Et donc, en fait, ça veut dire, et je l'interprète dans des mots qui conviennent, ça veut dire le maintien de la domination coloniale sur les restes de l'Empire colonial français. C'est ça. Ça veut dire pouvoir faire peur à la marine chinoise, si on y arrive, autour de la Nouvelle-Calédonie, pouvoir faire peur à une marine, je ne sais pas laquelle, qui viendrait envoyer des bateaux autour de la Martinique et de la Guadeloupe, pouvoir faire peur à la marine russe si jamais elle venait faire des circuits autour de l'île de la Réunion, c'est ça. C'est ça qui est en jeu, ce que Macron est en train de faire et qui ne nous dit pas, parce que ça, il ne l'explique pas, c'est qu'il veut le maintien de la domination coloniale sur toutes les possessions outre-mer de la France. Quelle que soit l'opinion des habitants de ces pays-là, de ce qu'on appelle les DOM ou les territoires, etc. C'est ça le jeu. Donc déjà, vous voyez, c'est intéressant parce que là, la Marine nationale, elle a très bien compris qu'elle allait avoir le gros des dotations, en particulier le deuxième porte-avions et d'autres choses, des sous-marins neufs, et que c'est tout ce qu'il faut pour aller. Mais surtout, elle sait que sa mission est de maintenir le colonialisme français dans ce qu'il en reste, je précise bien, dans ce qu'il en reste, en état de fonctionnement. Là, on est dans du pur Macron.
Pas beaucoup.
Et c'est ça qu'il faut que nous sachions. C'est-à-dire que dans les 413 milliards, il y a une bonne partie qui est destinée à maintenir la France dans son rôle de république coloniale, dans ses pires aspects, parce qu'il faut savoir que c'est bien joli de dire « Oh, ben, on a un porte-avions qui est allé faire des ronds autour de Tahiti, c'est pas grave. » Non, c'est pas grave, sauf en cas de conflit. Et donc, c'est pas grave. Si c'est grave, ça veut dire qu'une partie de l'argent de la France, une partie de nos impôts, sert à maintenir dans un régime colonialiste les Kanaks, les Polynésiens, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais, tout ça. C'est ça que ça veut dire, et c'est ça qu'il faut que nous sachions. Alors, c'est d'autant plus intéressant que nous le réfléchissions, c'est que dans le même temps où d'autres pays qui ont souffert du colonialisme français, je veux parler des pays d'Afrique noire francophone en particulier, sont en train de dire maintenant la France, on l'a assez vu. On a vu ce que c'était que la colonisation, on a vu ce que c'était que le néocolonialisme et la néocolonisation, et on n'en veut plus. Alors ce serait assez intéressant de voir ce qui va se passer, parce que ce qui s'exprime comme ça très clairement maintenant au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, et qui va probablement, qui se dit aussi beaucoup au Cameroun et tout, va peut-être un jour s'étendre de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des colonies encore existantes. C'est ça qui se joue, et c'est ça qui est en train de, que Macron est en train de vouloir désamorcer en disant « la flotte de guerre française croisera sur tous les océans ». Alors, il faut voir la limite du genre, c'est-à-dire que même avec un autre porte-avions qui ne fera que remplacer le Charles de Gaulle dans une dizaine d'années, s'il est fini, ça ne remplace pas, enfin, ça n'est rien du tout à côté des porte-avions des États-Unis, ça n'est rien du tout même à côté de la marine chinoise qui, aujourd'hui, est déjà devenue, en nombre de navires de guerre, la première du monde. Ça, c'est très, très important. La Chine est aujourd'hui en capacité de se construire elle-même ses porte-avions. Elle en a un troisième qui est en cours de construction. Elle en fera d'autres. Elle fait des sous-marins et tout. Donc, de toute façon, la marine française, pour défendre la Nouvelle-Calédonie ou la Réunion, n'est pas à la hauteur des autres. Et quand on voit déjà, alors c'est là que ça devient cocasse, l'émotion suscitée aux États-Unis par des manœuvres navales qui ont eu lieu dans le sud de l'océan Indien et qui, les jours passés, ont réuni la marine de guerre chinoise, la marine de guerre russe et la marine de guerre sud-africaine, ouais. Car elle existe, ouais. On se dit qu'effectivement, là, il y a un vrai changement. Mais les États-Unis n'ont plus que se plaindre en disant « il y a une menace pour nous ». Alors, vous voyez, alors, c'est la déformation impérialiste caractérisée. Depuis Washington, il y a un monsieur ou d'un bureau où on dit « ah, regardez, il y a un navire russe ou deux navires russes, trois navires chinois et quatre navires sud-africains. Les États-Unis sont menacés ». Bon, c'est pas menacé du tout. Simplement, les États-Unis doivent apprendre à dire, à regarder que tout le monde n'est pas d'accord avec leur politique et que chaque pays a le droit de mener, voilà, de mener les manœuvres militaires qu'il souhaite. Voilà. Arrivé au point où j'en suis, c'est pour aller dans la suite de ce que je disais à propos de la manifestation de Gênes. On va écouter une petite chanson que j'ai sélectionnée pour vous. Alors vous allez voir quel rapport. Vous allez voir quel rapport. C'est tout à fait simple. On écoute le chanteur espagnol que vous connaissez certainement tous, Paco Ibáñez, qui chante une chanson de Gabriel Celaya qui s'appelle la poésie est une arme chargée de futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lui, il explique, mais je le redis quand même avance pour bien vous faire comprendre le sens de mon choix. La poésie est une arme chargée de futur. Ça veut dire qu'il y a un moment dans l'histoire, et nous sommes, je pense, dans un de ces moments-là, où il faut que chacun dise « moi, je sors de ma routine, je sors de mes petites habitudes » parce que l'histoire est en train de se transformer, l'histoire est en train de basculer, et là, tout le monde doit prendre sa part. Et c'est là que le poète, qui est normalement considéré comme sur ses nuages, loin de la réalité, c'est là où le poète doit prendre parti. C'est-à-dire, je veux que ce changement ait lieu et j'y apporte ma pierre sous forme de chanson. C'est pour ça qu'on écoute Paco Ibáñez qui chante « La poésie est une arme chargée de futur ».
Gabriel Celaya, une chanson. La poésie est une arme cargada de futur. La poésie est une arme chargée de futur. Ou la poésie est une des armes chargées de futur. Cette chanson elle a une grande importance parce qu'elle est écrite vers 1956 et c'est une chanson manifeste. Ça veut dire que c'est un moment donné où il y a des poètes qui ont pris une position. Et derrière Celaya, il y avait Goytisolo, il y a d'autres, il y a Ángel González, il y a d'autres poètes qui ont pris cette position. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, nous ne pouvons pas rester en dehors de la réalité, en dehors de tout ce qui nous empêche de vivre et de nous développer. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
On est dans une période où effectivement chacun doit sortir de son train-train pour bien prendre la mesure des transformations en cours qui sont importantes. Alors, elles peuvent l'être dans le sens négatif, car dans le même temps où M. Macron prévoit de dépenser 413 milliards pour la défense nationale, la situation de l'économie française est réellement préoccupante. Alors, j'ai trouvé que c'était assez étonnant. Vous savez qu'il y a un organisme européen qui s'appelle Eurostat, qui publie toutes sortes de statistiques sur tous les pays d'Europe et de l'Union. Et cet Eurostat a publié récemment, a mis en place en 2015, un instrument de mesure des faillites de toutes les sociétés sur l'espace de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il constate dans le dernier bilan de son activité, de cette statistique, qu'en France, puisqu'ils suivent la France parmi les autres membres de l'Union, les faillites ont augmenté énormément en 2022 et que sur, par exemple, le dernier trimestre de 2022, le nombre des faillites est supérieur de 25% à ce qu'il était au dernier trimestre 2021. Et le mouvement se continue de cette façon-là. Ce mouvement touche principalement, vous avez compris, enfin, c'est pas la peine de le dire, mais c'est clair, les petites et les moyennes entreprises, pas les grandes, puisque vous savez que ceux du CAC 40 vont très bien, merci pour eux. Et donc, effectivement, on est face à un moment où une partie de l'économie française va quasiment s'effondrer. C'est beaucoup, hein, les faillites qui augmentent de 25%. Toute une série de secteurs, alors qu'ils sont listés, d'ailleurs, dans l'étude d'Eurostat, transport, logistique, hôtellerie, restauration, les principaux secteurs visés. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de chômeurs, beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de revenus fiscaux, etc. Bon, les faillites sont là. Dans le même temps, il faut savoir que la France qui a beaucoup dépensé, enfin le gouvernement français qui a beaucoup dépensé pour aider les uns et les autres, mais probablement c'est passé à côté des bonnes cibles, puisque précisément il y a des secteurs qui sont en train de faire faillite, mais pas tous. Il y en a qui vont très bien. Bon, la France qui a beaucoup donné, enfin le gouvernement français qui a beaucoup donné, situe son niveau de déficit budgétaire à 5,5%. Du produit intérieur brut. Alors, si vous vous souvenez, si vous avez la cruauté de vous souvenir que l'Union européenne avait dit « mais au-dessus de 2,5%, il ne faut pas aller », on est déjà presque au double. Et donc, la France est à un niveau d'endettement qui est un des plus élevés de toute l'Union européenne, beaucoup plus que l'Allemagne, beaucoup plus même que l'Italie. Donc, la situation financière de la France et de l'économie française est très, très préoccupante. Et c'est pour ça que quand on confronte cette situation réelle à l'espèce de fuite en avant dans le rêve militaire et le rêve néocolonial, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein ? Les deux ne vont pas ensemble. Il y a une espèce de rêve qui se poursuit à travers ce rêve de domination impériale, coloniale, et puis la réalité de l'économie française, qui est une réalité très affaiblie et très préoccupante. C'est ça la donnée sur laquelle va se jouer non seulement la crise des retraites, mais toute l'activité politique de cette année, c'est-à-dire un gouvernement qui a des ambitions qui n'est pas capable de satisfaire. Et que le pays ne peut pas satisfaire et qui est obligé, alors en plus, de serrer sur tout. Donc tout le monde va être mal. Moins d'aide pour les entreprises, moins d'aide pour les collectivités territoriales, moins d'aide pour ceci, moins d'aide pour cela. Donc il y a une espèce d'impasse qui est une impasse purement politique. C'est-à-dire que dès l'instant où on ne veut pas afficher la politique coloniale que je viens de décrire et qu'on la poursuit malgré tout, on a des ambitions supérieures à ses capacités. Et donc, on est là, en plus, dans l'espèce d'impasse du macronisme qui, je pense, en marque la fin historique, c'est-à-dire des ambitions qui ne sont pas possibles à satisfaire et qui ne sont que les siennes. Parce que qui y a derrière ? Qui y a derrière ? Ben, on ne sait pas. Qui y a derrière ? À qui ça profite qu'on garde les colonies ? Pas à grand monde. Et de toute façon, à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, hein, ça profite aux grandes banques, ça profite aux vendeurs d'armes, mais ils n'ont pas de problème, ils ont beaucoup de moyens. Et donc, la manne tombe, tant mieux. La manne ne tombe pas, ils feront leur travail ailleurs. Voilà. J'en finis pour la France, mais vous savez que ça reste d'actualité et que c'est cette perception-là de la situation de notre pays qui doit être présente dans toute la tête des manifestants et des grévistes de mardi prochain, parce que c'est bien ça qui se joue. C'est pas simplement les comptes de l'assurance vieillesse. C'est un projet politique qui nous est imposé par petits morceaux et qui veut que la France demeure une puissance coloniale arrogante, orgueilleuse, excessive, alors qu'elle a beaucoup de moyens pour rendre sa population heureuse. Mais manifestement, ce n'est pas le souci de l'équipe au pouvoir. C'est ça qui se joue et c'est ça qui va se jouer encore dans les semaines qui viennent. Et il faut que nous soyons conscients, comme les poètes de Paco Ibáñez, que là, on doit être là. J'en dirai pas plus, on en reparlera. Mais à chacun de réfléchir. Alors, j'en viens à d'autres petites actualités internationales. Il y en a, puisque je vais vous parler du plan de paix chinois. Ça fait référence donc à la situation ukrainienne. Vous savez qu'à la suite donc la fameuse conférence de Munich qui s'était tenue donc et qui avait mis en gros la Russie en accusation en disant que c'était d'eux que venait tout le mal. La Russie a été mise en accusation par tout l'Occident, c'est tout à fait clair. Et la Chine, qui était présente par la voix de son responsable de la politique étrangère à la réunion de Munich, avait dit « Nous, on va faire des propositions pour essayer de sortir de cette situation puisqu'on considère que ce conflit devrait cesser. Ouais. » Alors, ils ont fait une série de propositions qui ont été diffusées assez vite, que j'ai quelque part là sous les yeux. Voilà. Alors, c'était un programme en 11 points, en 12 points, pardon, que je vais essayer de synthétiser le plus possible. Mais le premier point, c'était le respect de la souveraineté des nations. Donc, c'est la base de la Charte des Nations Unies, en disant « Toutes les nations, du point de vue du droit international, sont égales, qu'elles soient grosses, petites, riches ou pauvres. » Ça, c'est le premier point. C'est la démocratie internationale, d'une certaine façon. Deuxième point, abandonner la mentalité de guerre froide, c'est-à-dire ne pas considérer qu'il y a un camp contre un autre et qu'ils vont en découdre. Troisième point, arrêter les combats, évidemment. Quatrième point, reprendre des négociations de paix. Alors, il faut savoir, par exemple, que le gouvernement ukrainien dit qu'il ne veut pas négocier. Hein. Oui, vous en allez de chez moi et on n'en parle plus. Cinquième point, résoudre la crise humanitaire. Parce qu'effectivement, on a compris, et je ne veux pas dire qu'on ne s'en préoccupe pas, mais évidemment, la guerre, c'est des souffrances, c'est des morts, c'est des familles désunies, c'est des orphelins, tout ça, on le sait. Bon, c'est bon que la Chine le rappelle. Protéger les civils et les prisonniers de guerre. Et on a vu que sur le théâtre ukrainien, ça n'a pas été tout à fait le cas du côté des Ukrainiens. C'est-à-dire protection des civils limitée. Ils avaient déjà bombardé des civils pendant 10 ans depuis 2014 et ils continuent chaque fois qu'ils peuvent. Les prisonniers de guerre, ils en ont à l'occasion décapité. Donc là aussi, on est dans un point évident qui est à retravailler. Septième point, garder sous protection les installations de production électrique par voie nucléaire. Parce que vous savez, ça fait référence au fameux cas de la centrale de Zaporoïe qui a été bombardée plusieurs fois par les Ukrainiens, mais qui, heureusement, y a survécu. Huitième point, réduire les risques stratégiques, c'est-à-dire, il rappelle, les armes atomiques ne doivent pas être utilisées et les guerres nucléaires ne doivent pas avoir lieu. Ça fait référence à la fameuse déclaration commune des 5 puissances du Conseil de sécurité disant que la guerre nucléaire n'a plus de sens parce que de toute façon, tout le monde meurt. Bon. Neuvième point, faciliter les exportations de grains. Parce qu'effectivement, alors il faut savoir ce qu'on nous cache beaucoup dans les chaînes officielles, que la Russie est aujourd'hui le premier exportateur mondial de blé, même bien avant l'Ukraine. Alors la Russie a accepté de laisser sortir les exportations ukrainiennes avec l'accord avec la Turquie, la surveillance, mais la Russie est en capacité d'exporter beaucoup de blé. Elle le fait dans beaucoup d'endroits. Bon, mais il faut que ça soit libre, qu'il n'y ait pas de sanctions de travail. Ensuite, arrêter les sanctions unilatérales, ça on le sait. Alors à propos de sanctions unilatérales, je vais vous faire rire, c'est à peine drôle. Il faut savoir que les compagnies aériennes européennes, je veux dire Air France, Lufthansa, etc., sont en train de pleurer parce que la Russie leur a interdit le survol de son territoire. Alors, quelle importance. Mais si, il faut savoir que tous les vols provenant de Chine, du Japon à destination de l'Europe passaient au-dessus de la Russie, dans l'espace aérien russe, parce que c'est plus court. Et alors ces messieurs se mettent à pleurer en disant « Vous rendez compte, on fait le grand tour par le sud, etc. On est obligé. Et ça nous coûte plus cher, il y a plus de kérosène. » Eh bien, messieurs, il n'y a qu'à lever les sanctions, c'est tout. La Russie, elle fait ça simplement parce qu'on l'a sanctionné. C'est tout. Bon, ça c'est un cas. Il y en a une quantité d'autres. Maintenir, alors ça c'est une perspective intéressante, maintenir les chaînes de distribution, ce qu'ils appellent les chaînes d'approvisionnement, dans un état normal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un blocage tout d'un coup, on dit « Ah ben vous aviez de la marchandise qui était sur un train, qui était parti de la région de Pékin et qui était en direction de Paris, ah ben il ne passe pas parce qu'il y a des sanctions. » Ah, on dit « Oui mais ma marchandise, ah ben tant pis pour vous, votre marchandise, ben, elle est sur le train est bloqué à la frontière, et ben voilà, c'est tant pis pour vous, hein. Alors vos magasins sont vides, ah ben tant pis, c'est pas grave. » Ça fait partie des choses qui ne vont pas. Et ensuite, promouvoir la reconstruction après le conflit. C'est-à-dire que c'est bien joli de dire maintenant, on s'assoit autour d'une table, on trouve un accord, on le met en œuvre. Mais mettre en œuvre, ça veut dire reconstruire des pays détruits. Et c'est exactement le cas de l'Ukraine. Qui va payer la reconstruction de l'Ukraine, hein? Et comment? C'est une vraie question. Alors, la Chine produit donc ce document où il n'y a rien à redire. Hein, et en fait, dès qu'il est publié, les États-Unis disent « mais on n'en a rien à faire hein, ». Voilà. Donc,
il a été rejeté. Ouais.
Voilà, rejet. Bon, alors, en fait, il n'y a que des éléments de bon sens et des éléments du droit international tel qu'il est aujourd'hui, pas plus que ça. Hein, mais avec un souci de dire « il faut qu'on vienne dans une économie et dans une vie collective de la population humaine qui ne soit pas celle de la guerre permanente bon. ». Alors, quelles conséquences ça va avoir? À mon sens, la conséquence, elle est la suivante. La Chine a fait un geste de bonne volonté. Elle dit « ben voilà, je mets les gens autour de... Voilà ce qu'il faut faire dans un cadre où il y a moins de conflits, où on trouve des accords, où chacun défend une partie de ses intérêts mais n'essaye pas d'écraser l'autre. Enfin, tout ça, c'est contenu là-dedans. Et on essaye de faire fonctionner l'économie qui est mondialisée de toute façon. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais l'économie est mondialisée. Hein bon. Donc, et ça, tout le monde le sait. Et donc, la Chine dit « ben, vous n'en voulez pas ». Elle dit aux États-Unis « puisque vous n'en voulez pas, écoutez, on va en tirer les conséquences ». Et là où les États-Unis, à mon avis, ont mal vu le problème et vont s'en mordre les doigts, c'est-à-dire que la Chine va dire ben, « puisque vous ne voulez pas comprendre ça, moi je vais travailler avec la Russie, l'Inde et tout, ceux qui ont compris le langage que je viens de tenir. Si vous ne voulez pas le comprendre, tant pis, vous êtes minoritaire sur la planète, vous allez le rester ». C'est ça qui est dit, mais c'est la conséquence en deuxième temps. Le premier temps, c'est dire voilà ce qu'on met sur la. Voilà comment il faudrait travailler. Sachant très bien que pour l'instant, on n'y est pas tout seul. Vous ne voulez pas de ça? Ah ben alors, chacun dans son camp, et puis on s'organise. Nous, on a des objectifs généraux pour la population humaine et pour tous les pays. Vous ne voulez pas vous y rallier, ben tant pis pour vous. Donc, ça se fera sans vous, sous-entendu. C'est ça la suite. Ça veut dire qu'en fait, par leur attitude stupide, j'allais dire, les États-Unis sont en train de jeter de force la Chine dans les bras de la Russie ou la Russie dans les bras de la Chine. Bon. Et ça, c'était, je pense, le calcul qui était malicieux à la limite du gouvernement chinois, de dire voilà ce qui seraient les règles qui seraient bien, qui seraient bonnes pour sortir le monde de la crise. Vous n'en voulez pas. Ben, on va se débrouiller sans vous. Hein, parce que nous, on veut réellement que le monde sorte de la crise. Hein. Donc
pays,
vous voulez pas.
Le pays BRICS, là.
Oui, alors il y a les BRICS, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du
et
Sud.
Surtout forte population.
Voilà, et en plus la majorité de la population de la planète. Ouais. Sous-entendu, alors d'une part, les 400 millions d'Européens sont les dindons de la farce, puisque de toute façon les sanctions, c'est eux qui en souffrent. C'est pas le dernier exemple que je donnais sur les compagnies aériennes, c'est un parmi des dizaines d'autres. Hein. Et il ne reste au fond que les États-Unis face à tout le monde. Non pas. Alors personne ne veut la destruction des États-Unis, mais c'est ça que la classe dirigeante des États-Unis, dans l'incapacité totale même de concevoir, elle ne peut pas imaginer que le monde peut se passer de leur domination. Or, c'est tout à fait possible, et c'est ce qui est en train de se préparer. C'est pour ça que je vous disais, à propos de Paco Ibáñez, laissons les poètes rêver. Alors, à la limite, on se range, nous, tous les deux, du côté des poètes, abîmés, moi. Ouais. Hein, rêvons à une humanité moins stupide, et surtout à une humanité qui ne soit pas soumise aux caprices de quelques Macron, de quelques Biden, de quelques Trump, etc., qui ne nous intéressent pas, parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'avenir de l'humanité. Hein. Ils s'intéressent à leurs petites ambitions, etc. C'est nul et non avenu. C'est pas intéressant par rapport à 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard d'Indiens, 300 millions de Brésiliens. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Hein. Bon, donc prenons conscience de la petitesse de nos dirigeants et réfléchissons par-dessus leur tête, en poète s'il le faut, à l'avenir de l'humanité. C'est ça qui nous intéresse parce que l'humanité. Alors là aussi, on sort de l'égoïsme. C'est pas mon humanité à l'humanité d'Abi, mais mon humanité à moi ou l'humanité d'Yamine. C'est l'humanité de ceux qui viennent après nous, de ceux qui vivent autour de nous, de nos voisins, de nos amis, tous. C'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'on milite. Hein. C'est pas pour faire joli, etc.
Joli, ouais. Hein.
Bon, c'est ça qui se joue. Bon, je voulais insister là-dessus. Donc, sur la question ukrainienne, tout ce qu'on peut dire, c'est ça. Je voulais quand même en profiter. On a quelques minutes encore, hein, Yamin.
Ouais.
Bon. Pour raconter la visite de M. Biden à Kiev, qui est quand même un morceau de bravoure. Alors, vous avez tous vu, M. Biden arrive un beau matin, c'était lundi dernier, donc, par un très très beau soleil, de petit soleil d'hiver, dans un ciel très pur à Kiev, et il est reçu sur une vaste esplanade, dans le plein centre de Kiev, par le président ukrainien, alors ils sont à pied, tous les deux, sur cette immense esplanade, ils vont, ils viennent, ils bavardent, ils sont encadrés très légèrement et très discrètement, d'ailleurs par quelques hommes en uniforme avec
des
fusils mitrailleurs. Et puis, on sait que M. Biden vient. Alors ensuite, il va dans un bureau où il signe un certain nombre de papiers, c'est-à-dire de l'argent qu'il donne à M. Zelensky pour continuer à ses activités militaires. Et puis, il repart l'après-midi. Ça, c'est le... que vous avez vu, ce qu'on a essayé de vous montrer comme la synthèse de l'événement. Ce qu'on ne vous a pas expliqué, c'est comment il est arrivé là, M. Biden. Ben, M. Biden, il a pris le train. Comment il a fait ? Alors, il n'a pas pris le train depuis Washington, ça ne marche pas. Il a pris un avion à Washington dans la nuit du samedi au dimanche. Et il est allé jusqu'en Pologne avec cet avion. Alors, qui n'est pas, vous savez que d'habitude, le président des États-Unis a un avion à lui qu'on appelle Air Force One, hein, qui est marqué à l'étiquette du président. Non, là, il prend un avion militaire discret, de telle façon qu'on puisse croire, comme Air Force One est toujours sur le champ d'atterrissage, qu'il n'est pas parti. Donc, il se cache. Hein, il part la nuit, à 4h du matin de Washington, dans un avion militaire anonyme qui ressemble à tous les autres avions militaires. Il s'arrête en Allemagne pour faire le plein et il va atterrir en Pologne. Et là, en Pologne, on le met dans un train. Ah, mais quel goût du train a-t-il, ce M. Biden ? Ben, M. Biden, il a le goût du train. Il n'a pas le goût du train, en fait. C'est qu'en fait, la Russie lui a fait savoir qu'elle ne laisserait pas les avions militaires états-uniens survoler l'Ukraine et pas atterrir à Kiev, qu'il n'en était pas question, et que donc la solution, on le laisserait volontiers passer. D'ailleurs, le président Poutine a signé un laissez-passer particulier dans son train qu'il arriverait le matin du lundi et qu'il repartirait le lundi après-midi. Et dans ce cadre, il y avait donc un laissez-passer exceptionnel signé par le président russe autorisant le président des États-Unis d'Amérique à venir passer la matinée à Kiev. C'est ça qui s'est passé. Alors ça, c'est effectivement pas très glorieux. Mais ça a eu lieu tout simplement parce que de toute façon, les États-Unis sont coincés, et la Russie l'a bien compris, dans la mesure où les États-Unis veulent dire « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». Guerre dont ils ont effectivement très très peur. Alors on envoie des seconds couteaux, genre les Ukrainiens ou d'autres, se battre contre l'armée russe, mais surtout pas nous. Donc nous ne sommes pas en guerre. Donc on ne peut pas dire qu'on peut aller où on veut et dans un pays qui est en guerre. Alors la Russie dit oui, ce pays est en guerre, je sais, j'y suis, hein, et c'est moi qui commande. C'est moi qui commande, donc vous viendrez si je veux bien que vous veniez. Et c'est exactement ce qui est passé. Et c'est alors, pour corser l'histoire et pour lui donner une touche quasiment farcesque, il faut savoir que le train polonais qui amenait M. Biden et sa suite à Kiev a été repeint dans la nuit aux couleurs de l'Ukraine. Comme ça, il pouvait faire illusion. Et à ce moment-là, l'état-major russe savait qu'il ne fallait surtout pas toucher à ce train puisque la visite était autorisée par le président. Et ça s'est achevé. Alors, ça ne s'est pas achevé, mais il y a eu un petit commentaire amusant parce que le mercredi, je crois, madame la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe a été interrogée là-dessus et elle a dit négligemment « Oui, nous avons été informés de la visite du président Biden ». Elle l'a dit comme ça, gentiment, pour dire « Non, elle n'a pas pu dire parce que ce serait blessant pour Joe Biden. Ça, on a autorisé le président des États-Unis à venir à Kiev. » Non, on n'a pas autorisé. Donc, ils ont été très, très polis. Ils sont bien élevés, les Russes. On a appris que, et bon, on était informé, sous-entendu, notre armée était informée et notre armée n'a pas tiré sur le train présidentiel parce qu'on lui a dit de ne pas le faire, c'est tout. Voilà. Et donc, il était clair. Donc, M. Biden pouvait faire son show, la Russie l'a laissé faire, et puis maintenant, il serait temps que les États-Unis comprennent qu'il faut qu'ils discutent sérieusement parce que ce petit niet, c'est un tout petit niet de la part de Poutine, je ne vous laisse pas rentrer avec votre avion et votre... Parce que quand l'avion présidentiel arrive dans un pays, ça s'est passé en Afghanistan, ça s'est passé en Irak, etc., il y a non seulement l'avion présidentiel, mais il y a 25 chasseurs autour, il y a de quoi, il y a une force de frappe considérable. Là, non, il est venu tranquillement par le train, sans armes, hein, et on l'a laissé venir. Puis il est reparti chez lui le jour même. Et le lendemain, il est allé faire un peu de cinéma à Varsovie pour montrer qu'il était encore très fort. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que les États-Unis sont dans une position ambiguë et extrêmement faible en particulier. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas la guerre, ils veulent que les autres fassent la guerre à leur place. Et puis ils s'aperçoivent que cette guerre n'aboutit pas. Et donc, il va bien falloir, et c'est là que la démarche chinoise se sert, il va bien falloir, à un moment donné, discuter, arrêter le carnage. C'est ça qui est à l'ordre du jour des prochaines semaines. Alors, ça va encore être un peu difficile parce qu'il y a aux États-Unis des gens qui profitent de ce conflit.
Il y a des faucons.
Oui, il y a des faucons. Et puis, il y a des gens qui vendent du matériel. Hein. Donc, les Lockheed, les Raytheon et tout, ils vendent beaucoup de matériel. Et ces gens-là, c'est des gens très embarrassants pour la classe politique des États-Unis, en particulier pour Biden et pour les autres candidats à la présidence. Parce qu'il faut savoir que la campagne des élections présidentielles pour l'élection présidentielle de fin 2024, elle est commencée. Elle est commencée dans certains États pour les primaires. Et donc, pour gagner des primaires, il faut que les entreprises riches donnent de l'argent aux candidats. Et si M. Biden se met à dire au complexe militaro-industriel « Oh, je n'ai pas besoin de vous et je ne veux pas de votre argent », M. Biden ne sera même pas que... ne sera même pas candidat démocrate aux élections de 2000. Donc, vous voyez, il est très, très mal barré. La situation est très, très compliquée pour lui s'il veut vraiment être une deuxième fois président. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix pour la nation américaine qu'il soit dans l'État où il est, qu'il soit une deuxième fois président. Mais ça, c'est autre chose. Tout ceci étant, c'est question d'argent, donc de complexe militaro-industriel. Qui finance les campagnes des États-Unis ? On les connaît, hein, c'est toujours les mêmes, c'est les grosses boîtes qui financent. Et donc, il n'y a pas de quoi réjouir M. Biden et son entourage qui sont, je vous dis, ils sont dans l'impasse, ils essayent de faire beaucoup de bruit, d'annoncer beaucoup de choses, et en fait, l'avenir n'est pas très très brillant pour leur politique. Voilà ce que je voulais dire, je pense qu'il est temps d'achever. On va se retrouver donc mardi prochain, comme d'habitude, et le mercredi, qui est notre émission mensuelle, on aura un témoignage intéressant puisque je vous ferai rencontrer et écouter une personne qui a été soumise à la rafle des nazis sur Marseille au mois de janvier 1943 et qui a survécu, elle et sa famille. Donc c'est à travers cette personne que l'on vous fera participer à cet événement marseillais qui a non seulement été donc la destruction du vieux quartier du Vieux-Port, ça vous êtes un peu au courant, mais aussi au fait qu'il y avait une rafle générale qui a duré plusieurs jours, qui était destiné à envoyer des centaines de juifs dans les camps de concentration et les camps d'extermination. On aura un témoignage là-dessus. Voilà.
Moi, je voulais simplement, étant donné que nous avons reçu énormément des dons, beaucoup des dons et beaucoup des promesses jusqu'à présent.
Pour la Syrie.
Pour la Syrie, surtout, le tremblement, pour les sinistrés syriens, quoi, je vais dire. Hein. Bon, voilà, nous avons reçu énormément des dons. Nous avons encore en cours, il y a beaucoup de promesses. Je tiens mais vraiment vivement à remercier la population, surtout du Bouches-du-Rhône et puis même du côté de Paris. Je voudrais remercier vivement tout ce monde qui ont contribué à ce que nous avons vraiment des dons très très importants actuellement. Voilà. De la part de l'Association de solidarité et d'aide franco-syrienne. Merci beaucoup et je remercie tout le monde.
Merci Yamine.